La parole du jour avec Paul Rodier, diacre.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, je suis heureux de vous retrouver en ce mois de juin. Cette semaine, nous allons suivre les pas du bienheureux Antoine Chevrier, fondateur de l'Ordre du Prado. Antoine Chevrier est né le 16 avril 1826 en plein cœur de Lyon, dans la Presqu'île, située entre Rhône et Saône, à quelques centaines de mètres de la place Bellecour. Il sera baptisé deux jours après dans l'église de sa paroisse Saint-François de Sales. Nous sommes au temps où Victor Hugo écrit Les Misérables, Karl Marx rédige son œuvre Le Capital, Émile Zola travaille sur l'Assommoir, au temps de l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon et du révolutionnaire Michel Bakounine. Ces personnes, comme lui le sera, sont sensibles à la misère ouvrière qui allait de pair avec l'entrée de la France dans l'ère industrielle. Son père, Claude, est né à Lyon en 1789. Il est issu d'une lignée de fabricants de bas de soie. Il est devenu employé à l'octroi municipal, modeste fonction. Je rappelle que l'octroi était une contribution indirecte perçue par les municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire. Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables, telles que le vin, l'huile, le sucre, le café, etc. Il est signalé dès le XIIe siècle à Paris et servit à financer l'entretien des fortifications et les travaux d'utilité publique. Claude, son père, a connu deux précédents mariages avant d'épouser en janvier 1826 Marguerite Fréchet. Marguerite, née en 1798, est fille d'un cultivateur qui était en même temps tailleur d'habits et est arrivée jeune à Lyon. D'abord apprentie, puis ouvrière, elle est parvenue par son travail et sa détermination à posséder un petit atelier pour le tissage de la soie. Claude était un homme bon et doux, qui laissait à son épouse la responsabilité du ménage et l'éducation de leur garçon Antoine. Elle nourrissait de grandes ambitions pour son fils. Elle lui donnera une éducation particulièrement sévère, empreinte de jansénisme. L'époque d'Antoine Chevrier n'a pas cessé d'être une période politiquement et socialement tumultueuse, comme je le rappelais tout à l'heure. Les bouleversements nés de la grande révolution de 1789 se sont poursuivis. Je cite « Révolution de juillet 1830 qui chassa le roi Charles X au profit du roi Louis-Philippe. Émeute des tisseurs de soie de la Croix-Rousse, les Canuts, à Lyon en novembre 1831. Insurrection lyonnaise pro-républicaine d'avril 1834, près de 300 morts. Révolution de 1848 qui obligea Louis-Philippe à abdiquer et qui permit l'instauration de la Deuxième République. » Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, établissant le Second Empire. Révolution de 1870 et proclamation de la Commune à la suite de la défaite de Sedan dans la guerre, opposant la Prusse à la France et création de la Troisième République. Enfant puis adulte, Antoine Chevrier a connu tous ces événements qui vont le marquer profondément. Un des vicaires de sa paroisse discerne en lui les germes d'une vocation sacerdotale et insiste pour le faire entrer en octobre 1840 à l'école cléricale, sorte de petit séminaire de la paroisse. En 1843, il est admis au collège apostolique de l'Argentière, dans les monts du Lyonnais, où on y met une vie très austère, voire monastique, à l'abri des réalités du siècle. En 1846, il entre au grand séminaire de Lyon, dans lequel souffle l'esprit missionnaire de l'œuvre de la propagation de la foi, à laquelle Pauline Jaricot a tant contribué. Le 25 mai 1850, Antoine est ordonné prêtre avec 49 autres diacres. Il est nommé vicaire à la paroisse Saint-André à la Guillotière. Du fait du développement accéléré de l'industrialisation, les nouveaux prolétaires et leurs familles y sont arrivés par vagues, venant chercher de l'emploi dans la multitude d'entreprises qui s'y implantent. Mais tous ne trouvent pas du travail, et la Guillotière est aussi un vivier pour mauvais garçons et filles perdues, valant à ce faubourg une mauvaise image. Antoine arrive deux mois après celui qui va être son curé, M. Barjot. À peine installé, il déploie un zèle pastoral remarquable. Outre les nombreux enterrements et baptêmes qu'il célèbre, presque tous, il a également le souci des malades qu'il visite sans compter sa peine. Il accorde beaucoup d'importance à la prédication. En mai 1856, de graves inondations vont attirer l'attention sur Antoine. Le samedi 31 mai, le Rhône quitte brusquement son lit et les flots déferlent vers les bas-quartiers des Brotteaux et de la Guillotière. Les fragiles maisons empisées, minées par l'eau, s'effondrent les unes après les autres et l'on peut voir un peu partout des gens juchés sur des refuges de fortune appelés à l'aide. Antoine et un autre vicaire, l'abbé François Aour, n'écoutent que leur courage et, se joignant à deux sauveteurs, ils se portent au secours des personnes en danger. Les jours suivants, toujours au risque de sa vie, il parcourt le quartier à la recherche des sinistrés. Il sauve ainsi de nombreuses personnes et ravitaille en pain maintes familles. Les habitants de la Guillotière n'oublieront jamais son dévouement. Le jour de Noël 1856, alors qu'il médite devant la crèche installée à l'église Saint-André, Antoine est bouleversé par une évidence qui s'impose à lui de manière extraordinaire. Pour venir jusqu'à nous, Dieu, en Jésus, a choisi la pauvreté. Et parce que le Fils de Dieu est venu en pauvre partager la condition des déshérités, Antoine Chevrier se sent appelé à suivre radicalement le même chemin. Il voudra devenir un prêtre pauvre pour les pauvres. Et il aura le souci de trouver d'autres hommes prêts à s'engager dans la même voie, et ainsi va-t-il contribuer à façonner de manière nouvelle le clergé. La force de l'illumination a été telle que c'est aussitôt qu'il veut changer de vie. Ses confrères l'obligent à un peu de retenue. En janvier 1857, le jeune prêtre va consulter Jean-Marie Vianney dans sa cure d'Ars. Le Saint-Curé l'écoute et approuve son projet. En juin, quelques mois après, il rencontre un laïc lyonnais, Camille Rambaud, qui a eu le courage de rompre avec ses origines bourgeoises. Touché par la misère des ouvriers, influencé par le socialisme de Charles Fourier, il a abandonné son métier de soyeux et il s'est mis à recueillir et à catéchiser des enfants pauvres, incurables et abandonnés. Après les inondations de 1856, il a entrepris de créer une cité ouvrière, la Cité de l'Enfant Jésus, située dans le quartier de la Part-Dieu. Antoine quitte Saint-André et vient rejoindre Camille Rambaud, devenant officiellement, avec l'accord de l'archevêque, aumônier d'une œuvre de catéchisme pour les enfants et aumônier d'une œuvre sociale de logement pour les ouvriers. En 1860, le 10 décembre, il signe le bail de location d'une maison connue sous le nom de Prado. Il s'agit d'un établissement de danse qui existait depuis 1837. Mais fréquenté par de petits trafiquants, le lieu avait fini par avoir très mauvaise réputation. Antoine va restaurer ce bâtiment. La salle de bal est transformée en chapelle. C'est toujours son usage actuel. Un an plus tard, le père Chevrier achète l'ensemble de la bâtisse et ses dépendances. La providence du Prado est née. Il n'aura de cesse de réunir autour de lui des prêtres disposés à se faire véritablement pauvres, ou des jeunes gens et des jeunes filles prêts à devenir prêtres ou religieuses avec cette vocation à la pauvreté évangélique. Dans le courant de 1866, il ouvre une petite école cléricale pour accueillir des jeunes de milieu populaire manifestant le désir de devenir prêtres. C'est de cette pépinière en plein quartier pauvre que sortiront les premiers prêtres du Prado. Les demandes d'adolescents qui désirent être accueillis au Prado augmentant, Antoine Chevrier acquiert en 1872 une propriété située à Limonest, au nord de Lyon. Le lieu deviendra un véritable séminaire au XXe siècle. C'est là qu'il va être obligé de venir se reposer, sa santé se dégradant. Il y passera les derniers moments de sa vie. Il meurt le 2 octobre 1879 au Prado, parmi les pauvres qu'il a tant aimés. Au jour de ses funérailles, plus de 10 000 personnes, parmi lesquelles 300 prêtres, suivant le cortège funéraire jusqu'à la chapelle du Prado, où son corps est inhumé. La Guillotière avait reconnu son saint. À demain.